on a des personnes, la plupart du temps, extrêmement fidèles. Fidèles à quoi? Au projet conjugal, mais c'est des gens absolument pas exclusifs. On voit des couples ouverts qui passent au libertinage, des couples libertins qui glissent vers le polyamour, voire aussi des couples, des relations non exclusives qui reviennent à l'exclusivité.
Bonjour et bienvenue dans Sexologiquement Vôtre, le podcast de la TSF. La TSF, c'est l'association qui promeut la thérapie sexo-fonctionnelle, qui est un type d'approche sexologique. Dans ce podcast, nous interviewerons des professionnels de tout horizon, dont la pratique se rattache au domaine de la santé sexuelle. L'objectif du podcast, aider les sexothérapeutes, les sexologues et les professionnels de santé à maintenir à jour leurs connaissances pour accompagner toujours mieux les personnes qui souffrent de troubles sexuels. Je suis Audrey et aujourd'hui, je reçois Félix Dussault depuis le Québec. Félix, bonjour.
Bonjour.
Tout d'abord, toutes mes félicitations pour votre soutenance et votre diplôme qui est tout frais, si j'ai bien compris.
Une semaine et une journée, très précisément. Voilà, je suis docteur en sociologie.
Félicitations pour ça. Et je viens d'apprendre, là, juste en coulisses, hein, tout à l'heure, que vous êtes en plus chargé de cours au département de la sexologie. Donc, c'est parfait pour nous.
C'est ça, voilà, au département de sexologie de l'Université du Québec à Montréal.
Donc, vous étiez en train de me parler, d'ailleurs, de ce département tout à l'heure. Et donc...
Ouais, c'est ça. Là, c'est contrairement à la France, il y a beaucoup de pays d'ailleurs dans le monde. Le Québec a un ordre des sexologues et l'Université du Québec à Montréal a un département de sexologie qui a été fondé par un prêtre dans les années 70. Voilà, qui recevait les confessions de ses ouailles et il se rendait compte qu'il y avait quand même pas mal de problématiques sexuelles. Donc, il a abandonné la prêtrise et il a fondé ce département-là. Une histoire assez originale. Et donc, le Québec est très très à la pointe là-dessus. Il y a des étudiants et des étudiantes du monde entier qui viennent étudier ici pour obtenir un diplôme de sexologue.
Mais il y a quelques années, en regardant les informations, en fait, je voyais une dame. C'était une bonne sœur d'un certain âge, hein, qui faisait les cours d'éducation à la sexualité en fait dans nos collèges et lycées français. Et quand je l'ai vue, j'ai dit mais c'est génial, je veux faire comme elle.
Mais c'est vrai que historiquement, on a toujours cette image de la religion. Qui contraint la sexualité, et à bien des égards, ça a été le cas, mais j'avais lu dans un ouvrage historique que au début de la Renaissance, on pensait que si les femmes avaient des orgasmes au moment de la procréation, parce qu'évidemment la sexualité servait à ça, ben en fait que les enfants seraient beaucoup plus beaux. Et donc en fait, les prêtres expliquaient aux femmes, alors ils n'avaient pas le clitoris en tant qu'organe, ils ne savaient pas forcément trop ce que c'était, mais ils savaient que quand on touchait à cet endroit, ça fonctionnait. Donc, les prêtres expliquaient aux femmes comment donner un orgasme au moment de la procréation en se disant bah, « les enfants seront beaux et en bonne santé dans ce cas-là ». Donc, c'est pas si étonnant que ça. Et puis, en tant que prêtre, on reçoit, voilà, on a le confessionnal, en tout cas dans le catholicisme, ça permet d'avoir un moment où on peut échanger en toute intimité sur la sexualité. Et donc, les prêtres sont un peu des personnes privilégiées pour recueillir les témoignages sur la sexualité et potentiellement donner des conseils, même si ce n'est pas forcément les personnes qui pratiquent le plus.
D'accord. Mais bon, effectivement, les principaux confidents, en tout cas les premiers, pendant longtemps.
C'est ça.
Alors, si je vous accueille aujourd'hui, c'est quand même pour parler de cette thèse que vous avez soutenue la semaine dernière, du coup. C'était quoi le titre de cette thèse, du coup?
Alors, au pluriel, c'était « Désir d'altérité, expérience relationnelle des personnes dans des configurations relationnelles non conjugales ». Voilà. Donc, le titre d'une thèse, c'est toujours un bel exercice. On y passe du temps à essayer de trouver un titre intéressant et un peu compliqué quand même. Mais voilà sur quoi je travaille.
Avant de commencer, je vous propose de revenir à certaines définitions. Donc, moi, j'ai lu un petit peu le résumé de votre thèse jusque-là, mais vous allez m'en parler un petit peu plus. Et puis, c'est marrant, on vient de parler de la religion il n'y a pas très longtemps. Et il y a un principe qu'on entend souvent, c'est la fidélité. Je crois qu'il a été pas mal dévoué. Est-ce que vous voulez m'en parler ou...
Oui, alors bon, c'est un vaste sujet. La totalité des religions, au moins monothéistes, prônaient Ben, en fait, il y a une confusion qui est faite entre l'exclusivité et la fidélité sexuelle, s'entend, et amoureuse aussi, même si on pourrait revenir là-dessus, de dire que le but, en fait, ça, c'est que notre conception du couple aujourd'hui est basée sur la fidélité, l'engagement de deux personnes dans une relation à long terme. Et la relation doit être amoureuse. Mais justement, la question de l'amour dans la relation est finalement très récent. Je dirais aller à un siècle et demi, deux siècles maximum. Et encore, il y a eu des évolutions. Donc, le but du couple, c'était une institution économique, le lieu de transmission du patrimoine et le lieu de la reproduction. En fait, et c'est là tout l'objet de la sociologie, en fait, on voit, à partir du 19e siècle, c'est ce que Émile Durkheim parlait, la solidarité mécanique et la solidarité organique. Les sociétés traditionnelles étant basées sur la solidarité mécanique et nos sociétés modernes sur la solidarité organique, pardon. Donc, avec des individus qui se différencient pour plein de raisons, etc., mais notamment économiquement. Et en fait, l'amour dans une relation n'était absolument pas évident pour nos ancêtres, on va dire.
Oui, il y avait pas mal de mariages arrangés, hein, soit pour les terres, soit pour le statut.
C'est ça, en fait, il y avait pas l'amour n'était absolument pas important.
C'était d'où l'amour courtois.
D'où l'amour courtois, etc. et d'ailleurs, faut faire attention qu'on a une lecture moderne d'une pratique passée, l'amour courtois, c'était absolument pas sexuel. Il y avait pas, on prend Tristan et Iseult comme vraiment roman fondateur de l'amour courtois, ils se touchent pas. Et justement, la force de leur amour et de la beauté de la chose, c'est que justement, Tristan étant pur, noble et intègre, il ne touche pas Iseult.
Je ne suis pas convaincue. Hein. Je me rappelle l'avoir lu et il me semble qu'ils se touchent, mais ils arrivent toujours à pouvoir dire le contraire parce qu'ils sont malins. C'est-à-dire qu'ils dorment avec l'épée au centre des deux. Donc, du coup, il y a séparation pour le roi quand il les retrouve. Et oui, ils se déguisent en mendiants aussi pour aider Iseult à traverser la foule. Et en fait, elle va monter sur ses épaules. Et elle va dire que seuls deux hommes sont passés entre ses cuisses.
Mmh. C'est ça, mais c'est symboliquement, il ne la touche pas. Et là l'honneur est complètement
l'honneur
sauf.
L'honneur est sauf.
L'honneur est sauf. Donc voilà, l'amour. Même on retrouve des textes qui remontent au moins jusqu'à l'Antiquité, de où on se moquait des gens passionnément amoureux, c'était vu soit avec amusement en mode oh, oui, c'est un truc, ça vaut pas grand chose, ou alors comme un danger pour la survie du groupe. C'est peut-être un peu trop fort de dire ça, mais de dire en fait le groupe primait sur l'individu. Et en fait le serment de fidélité et donc par extension d'exclusivité, c'était ça. Le but était la survie du couple. Donc du groupe, et c'est pour ça qu'il y avait un fort contrôle sur les pratiques intimes des individus. Et donc, partant de là, on demandait symboliquement, parce que c'est important et que nos sociétés humaines sont basées beaucoup sur la symbolique, eh bien, on demandait aux gens de ne pas avoir d'être fidèles à la personne, parce que, alors là, ça nous paraît complètement anachronique, mais une société où il y aurait une compétition pour avoir des partenaires sexuels, la plupart du temps en Occident, les femmes, pour qu'il y ait une compétition pour les femmes, il y a plusieurs ouvrages, ils disent sûrement que nos ancêtres se sont posé la question à un moment de comment on fait, et que, parce que, est-ce qu'on laisse libre, est-ce qu'on contrôle, etc. Et en fait, pour nos ancêtres, en Occident, c'était sûrement le meilleur, ou en tout cas le moins pire modèle, parce que bon, au moins tout le monde pouvait avoir un et une partenaire, et que voilà, les gens se mettaient pas trop sur la tronche pour les partenaires. Mais donc voilà, donc il y a ce ce serment d'exclusivité. Et puis, encore une fois aussi, hein, l'aspect économique, en tout cas pour les classes aisées, il y a un patrimoine qu'il ne faut absolument pas
transmettre
diviser.
Au fils du voisin.
Voilà, c'est ça. Donc d'où des institutions, le mariage en est une, pour s'assurer que, alors, bah, encore une fois symboliquement, hein, parce que c'est bien là le problème de beaucoup de sociétés patriarcales. C'est comment je m'assure que ma descendance est bien la mienne.
Maman, comme on sait, papa, on sait pas, n'est-ce pas?
Voilà, c'est ça. Et donc, il fallait s'assurer de ça, et le mariage, c'était la solution. Et mariage avec exclusivité sexuelle. Même si, mais on y reviendra peut-être après, il y a des exemples historiques de non-exclusivité un peu, voilà.
En fait, il s'avère qu'effectivement, le mot fidélité, donc je suis retournée dans le Larousse le chercher, hein, donc le fidélité qu'on se jure en fait en se mariant vient bien du latin fides, donc qui est la foi, la confiance. Donc fidelitas, en qui on peut avoir confiance, et ce sont donc les qualités de quelqu'un qui est dévoué, attaché à quelqu'un ou quelque chose, les qualités de quelqu'un qui va être constant dans ses sentiments, ses affections et ses habitudes, les qualités également qui ne manque pas à sa promesse ou qui ne trahira pas un serment, et enfin quelqu'un qui va avoir ou quelque chose qui va pas être altéré au cours du temps. Voilà. Donc, il n'y a pas de notion d'exclusivité sexuelle, comme on peut l'entendre souvent dans « il m'a trompé, il n'a pas été fidèle », etc. Donc, effectivement.
C'est ça. Et puis, si je peux me permettre quelque chose, je pense qu'aujourd'hui, pour arriver, parce que c'est ça aussi le sujet qui nous intéresse, je pense aujourd'hui qu'il y a une confusion entre fidélité et exclusivité. Aujourd'hui, on a alors... même si c'est critiqué et critiquable, bien évidemment, mais on a la pilule contraceptive, et la pilule contraceptive est une avancée de santé majeure. C'était Henri Lefebvre dans les années 70 qui disait la pilule anticonceptionnelle, il disait, est plus importante que les fusées spatiales, parce que l'histoire de l'humanité, pas dans toutes les sociétés, mais quand même, on le retrouve à différentes époques, c'est de pouvoir décorréler sexualité et reproduction. On a réussi à le faire, mais aujourd'hui, grâce au progrès de la médecine, mais on voit à travers l'histoire, les premiers préservatifs en Égypte antique étaient en boyaux de mouton, alors sûrement que l'efficacité n'était pas optimale, mais voilà, il y a des techniques à travers l'histoire les humains ont essayé de décorréler les deux. Aujourd'hui, on a réussi à faire ça. Mais néanmoins, on ne va pas changer 2000, 3000 ans, 4000 ans d'histoire comme ça d'un claquement de doigts. Et donc, on est encore tributaire aujourd'hui de ce mélange de fidélité, hein, que mariage qui a duré des siècles et des siècles, et exclusivité sexuelle. Et donc, pour beaucoup de gens, il y a une confusion qui est faite entre les deux, alors qu'à mon sens, et on en reparlera après sur mon sujet de recherche, dans les personnes que j'ai interrogées, on a des personnes, la plupart du temps, extrêmement fidèles. Fidèles à quoi? Au projet conjugal, parce que je pense que le couple, c'est ça. Ça reste le projet, mais on y reviendra. Mais c'est des gens absolument pas exclusifs. Et j'ai eu des témoignages vraiment passionnants là-dessus et très originaux, des petites anecdotes que je pourrais raconter tout à l'heure, mais sur des gens qui n'étaient absolument pas exclusif, mais qui était fidèle à leur serment, le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas au projet conjugal.
Bon, on va clore hein, là-dessus. De toute façon, on le sait aussi hein, que si on remonte au début du XXe siècle, les femmes se plaignaient d'avoir un devoir conjugal trop insistant. Et tant que les bordels existaient en France, on sait aussi que les hommes allaient régulièrement au bordel. Donc l'exclusivité était exclusive pour les femmes la plupart du temps, n'est-ce pas? Et donc pour le contrôle des naissances, comme on disait.
C'est ça, mais justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, la passion se vivait en dehors du couple, avec des travailleuses du sexe la plupart du temps, mais c'était pas au sein du couple qu'on vivait la passion. Alors qu'aujourd'hui, on considère que ça doit être dans le couple que cette passion doit se vivre. Et donc, il y a des attentes qui se créent qui sont pas forcément toujours faciles à tenir.
Et donc, comment toi, tu pars à la recherche, finalement, de ces personnes qui vont être à l'objet de ton étude, en fait? Comment ça s'est passé pour toi?
Alors, en fait, on a, On a ma directrice de thèse, Chiara Piazzesi, et Martin Blé, donc deux professeurs, deux sociologues de formation qui sont à l'UQAM, Chiara Piazzesi au département de sexologie, Martin Blé sur la chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité de genre. On lançait une grande étude au Canada, l'étude MACLIC. Je vais le faire en français parce que c'est un acronyme anglais, si on est au Québec. Donc, pour cartographier les idéaux intimes et amoureux au Canada. Donc, une grande enquête pour comprendre quels sont les idéaux amoureux intimes des Canadiens et Canadiennes. En tout cas, des gens qui
résident. Est-ce que c'est pour ça que tu es parti au Canada, toi?
Oui et non. Moi, je suis arrivé, l'étude s'est lancée trois ans après mon arrivée. Parce que j'ai fait une première recherche en France sur les bisexualités, je le dis au pluriel, c'est important pour moi, sur les bisexualités. Et mon directeur de recherche à ce moment-là m'a dit « Oh, si vous voulez partir sur les questions de sexualité, vous devriez aller voir au Canada. » Parce qu'il dit « En France, on ne vous prendra pas au sérieux. On vous citera parce que… c'est un peu exotique, sociologie, sexualité, c'est très drôle. On vous lira parce qu'il dit ça permet d'être voyeur sous couvert d'académisme, mais on vous prendra jamais au sérieux. Alors ça a changé un petit peu entre temps, du moment où je suis parti, parce que je suis arrivé en janvier 2019 au Québec. On a des études qui commencent à sortir. Je pense notamment à l'étude de Marie Bergström à l'INED sur la sexualité des jeunes. Il y a de plus en plus de chercheurs et de chercheuses qui commencent à travailler là-dessus, mais ça prend du temps. Donc, il m'a dit, vous devriez essayer le Québec. Il y a un département de sexologie à l'UQAM. Allez voir là. Et donc, j'ai contacté Martin Blé à l'époque, qui m'a renvoyé vers Chiara Piazzesi et donc qui est devenue ma directrice de recherche. Et donc, ces deux chercheurs ont eu des financements un financement fédéral pour étudier justement les idéaux amoureux et intimes des gens au Canada. Et donc, on a eu 4000 personnes, 4007 exactement, personnes répondantes et réponses valides de personnes qu'on a fait tourner le questionnaire. C'est une étude statistique. On l'a fait tourner autour de nous. On a fait des pubs sur les réseaux sociaux, etc., pour avoir une étude aussi représentative que possible de la population canadienne. On n'est pas loin du représentatif, même si il y a quelques certaines personnes, certaines catégories de la population qu'on a eu un peu plus de mal à atteindre. Et dans ce questionnaire-là, c'était moi qui m'occupais des questions sur les relations plurielles, qu'on appelle souvent, il y a plein de termes, mais les relations non monogames éthiques. Je suis pas fan du terme monogame ou non monogame, mais bref. Moi, je parle plutôt de relations plurielles. Et donc, voilà, pour demander, est-ce que vous êtes dans une configuration plurielle ou une autre? Alors, on en avait identifié trois, ce qu'on a appelé les configurations polyamoureuses, donc toutes les formes de polyamour, donc la possibilité pour les personnes impliquées dans une relation de vivre de manière transparente et parallèle des relations amoureuses et ou sexuelles avec plus d'une personne. Donc, ça comprend l'anarchie relationnelle, ça comprend le polyamour hiérarchique, ça comprend les solopolies, etc., etc. Les configurations libertines, donc les sexualités de groupe et tous ces dérivés, le cotacotisme, le candolisme, etc. Donc, généralement, des sexualités de groupe. Et puis, les configurations de type couple ouvert ou couple libre. Alors, la définition, à chaque fois, que ce soit pour les deux premières configurations, mais aussi pour le couple libre varie. Généralement, on garde comme définition deux personnes engagées dans une relation amoureuse, mais qui se laissent la possibilité d'avoir des relations sexuelles extra-conjugales. Voilà. En gros, c'est ça, même s'il y a des variations. Donc, moi, j'avais fait ces questions-là. Et donc, sur les 4007 répondants, on a eu 331 personnes, donc à peu près 8% de notre panel, qui était dans une forme ou une autre de configuration non exclusive. Et donc, je les ai contactés par courriel pour les personnes qui avaient donné leur accord pour être recontactées. Je les ai contactés en disant, je fais ma thèse de doctorat sur ce sujet-là. Est-ce que ça vous intéresse de participer? Et donc, moi, j'ai interrogé 20 personnes âgées entre 27 et 51 ans. J'ai contacté des personnes plus jeunes, mais elles ne m'ont pas répondu. La plus jeune dans le panel avait 18 ans, hein, parce qu'il faut aller être majeur pour remplir
pour
cette
y
étude.
répondre.
Voilà. Et la personne la plus âgée, je crois, avait 70 ans, mais elle m'a pas répondu. Donc voilà, mais ça change pas grand chose.
Donc
mais,
sur les 331, il t'en est resté combien?
Mais j'en ai interrogé 20. Bon, je vais pas forcément rentrer en détails méthodologiques à ce moment-là, mais j'ai essayé d'interroger autant d'hommes cisgenres que de femmes cisgenres que de personnes queer. J'ai fait une division par classe d'âge. Donc 18 à la base 18-25 ans, 26-35 ans, etc. Et j'ai essayé d'interroger autant de personnes bisexuelles que pansexuelles, qu'hétérosexuelles, etc. Alors là, par catégorie d'orientation intime, comme d'ailleurs, mais je pourrais en parler aussi après, par configuration, c'était en fait ça n'a pas été si pertinent que ça, parce que il y a souvent une différence entre ce que les personnes vont nous déclarer au moment du questionnaire et dans des entretiens semi-directifs, donc qualitatifs. Souvent, il y a une différence. Je peux prendre un exemple qui sera plus parlant. J'ai une femme cisgenre qui se déclarait hétérosexuelle et qui, avec son mari, ont des moments de sexualité de groupe. Et elle me dit j'aime les hommes amoureusement, mais sexuellement, quand on fait de la sexualité à plusieurs, j'ai aucun problème à avoir de la sexualité avec une femme. Et elle me disait j'y prends pas particulièrement de plaisir, mais a dit c'est quand même le fun de faire jouer une femme, voilà. Et à la fois, dans l'entretien, elle m'avait raconté qu'ils avaient rencontré au cours d'une soirée, alors pas libertine, mais au cours d'une soirée, ils avaient rencontré une jeune femme, c'est un couple de quarantenaires, une jeune femme qui avait plus de 10 ans de moins qu'eux, et elle avait été assez troublée. Donc, elle me disait comment me décrire. J'étais hétérosexuel, mais à la fois j'ai une sexualité qui va être bi, donc finalement voilà, dans le recrutement j'ai essayé au départ de diversifier un peu les orientations, mais on se rend compte en fait que les gens ont une sexualité beaucoup plus diversifiée qu'il en est. C'est comme sur les bisexualités, j'avais discuté avec un homme qui se disait hétérosexuel, mais dans un cadre de sexualité à plusieurs, n'avait aucun problème pour avoir de la sexualité avec un autre homme, mais il avait du mal à avoir des gestes affectifs, embrasser notamment. Il n'avait pas envie de faire de câlins à des hommes, mais il adorait ça. Donc, statistiquement, cette personne-là se disait hétérosexuel, mais sexuellement, il avait voilà de la diversité. Et puis après, voilà, 20 entretiens, histoire d'avoir de la diversité. Et là, je rentre pas dans la tambouille méthodologique parce que ça pourrait prendre très longtemps.
En tant que sexologue, nous, on a tendance à dire qu'il y a autant de sexualité que de couple hein, qui la composent, hein, de toute façon. Et après, au niveau définition, ça devient un pointu parce que chaque personne a sa propre définition aussi. Donc, c'est pas forcément à rentrer dans tes cases. Et pour autant, donc, tu dis, il y a 3 configurations au départ, donc le libertinage, le polyamour, le couple ouvert. Déjà, je vois pas bien la différence entre le couple ouvert ou le libertinage parce que souvent, les couples ouverts se disent eux-mêmes libertins.
Pas toujours. En fait, je voulais. En fait, c'est là où c'est très compliqué. Je vais donner 2 exemples qui seront plus parlants de personnes qui étaient en couple ouvert. Il y avait un couple ouvert qui avait le droit d'aller voir une fois par mois ailleurs. L'autre devait pas savoir et ça devait se faire en dehors du cercle d'amis. Ça a l'air très restrictif comme ça, mais c'était leur organisation et ça fonctionnait bien comme ça. Un autre couple constitué d'un homme et d'une femme, bisexuels tous les deux, en fait, eux, ils se faisaient des sessions Tinder ensemble dans le lit le matin. « Ah, lui, il est mignon. Ah non, je préfère elle, etc. » Et il y avait des moments où l'un et l'autre ramenaient leurs amants ou leurs amantes dans l'intimité conjugale. Les deux se disaient couple ouvert. Donc, quelle est la différence? Oui, il y a des couples libertins qui vont se dire en couple ouvert ou inversement, mais la différence pour moi entre couple ouvert et libertinage, encore une fois, les deux peuvent être cumulatifs, mais c'est que souvent, ça se fait séparément.
D'accord.
Ça se fait séparément, il n'y a pas de mélange de l'intimité.
le liberté à partage avec sa partenaire, souvent, ou son sans sa partenaire, alors que le couple ouvert, c'est plutôt chacun fait ce qu'il veut, comme il veut, là où il veut, avec des règles éventuelles de couple.
C'est ça, parce que souvent, je pourrais dire que le libertinage est une forme d'infidélité contrôlée. Il y a partage d'une intimité, on peut voir, ça peut rassurer, même si des fois c'est angoissant pour les gens de voir son ou sa partenaire avec d'autres personnes. Mais le couple ouvert, des fois, il y a un peu, ok, on sépare quand même nos sphères, parce que pour plein de raisons, ça peut être une façon pour la personne concernée de se lâcher, de vivre autre chose, de vivre, voilà, il y a une distinction entre sexualité ou en tout cas intimité conjugale et intimité extra-conjugale, et avec des variations dans l'intimité qui est vécue, dans le sens où il y a une personne, et pareil, on y reviendra après, mais il y a une personne que j'ai interrogée qui a eu un amant pendant plusieurs mois, si ce n'est plusieurs années, et cet amant est devenu un peu trop amoureux à son goût, un peu trop intime. Donc elle a mis fin à la relation assez rapidement quand elle a senti que son amant voulait un peu plus, parce que l'intimité amoureuse se vivait avec son conjoint et pas avec un amant. Donc voilà. Mais, et comme je disais, je vais y revenir après. C'est un des résultats de mon étude. On se rend compte que les intimités plurielles ont tendance à s'hybrider avec le temps. C'est-à-dire que ça reste pas aussi marqué qu'on pense. Moi, je m'attendais à ce que les gens, une fois trouvé leur mode de relation, y restent, etc. Et en fait, pas du tout. On voit des couples ouverts qui passent au libertinage, des couples libertins qui glissent vers le polyamour, voire aussi des relations non exclusives qui reviennent à l'exclusivité. C'est absolument pas linéaire. En tout cas, c'est très, très rare d'avoir des gens, oui, je suis polyamoureux, je reste polyamoureux toute ma vie, ou je suis exclusif, je reste exclusif toute ma vie. Mais c'est fait d'aller-retour, pas permanent, mais en tout cas, qui interviennent à différents moments de la vie.
Et sur les 20 personnes de ton étude, elles sont toutes en couple ?
Alors, certaines ne le sont plus, parce qu'il y a eu un an entre le moment, la passation du questionnaire et le moment où je les ai interrogées, qui a valu une bonne réflexion dans ma thèse, parce que dire au début, je dis, c'est vrai que c'était il y a un an, mais bon, voilà, je suis une thèse Covid, hein, donc il y a eu, ça a été compliqué.
Et puis,
le doctorat est une période stressante et très occupée. Donc, j'ai pas pu les interroger avant un an. Et donc, il y a eu des changements, des personnes qui, au moment de la passation du questionnaire, étaient en relation et puis un an après étaient séparées. Mais c'était très intéressant, des personnes qui étaient non exclusive au moment de la passation du questionnaire et qui n'était plus exclusive au moment des entretiens. Mais justement, ça a été super pertinent et de voir, voilà. Donc, la plupart, oui, étaient en couple, ou d'autres, j'ai eu une personne, il m'avait touché ce garçon-là, il venait de se séparer 3 semaines avant l'entretien, donc il était en pleine réflexion, notamment sur son non exclusivité, au moment, voilà. Donc, il y a des personnes qui étaient en couple, d'autres qui ne l'étaient plus. Et puis après, il y a les personnes polyamoureuses qui avaient plusieurs relations en même temps. Donc là, c'était autre chose encore.
Justement, ce serait ma question là, en fait. Donc, j'entends couple ouvert, j'entends libertin et libertin, j'entends aussi le mot couple. Moi, dans la notion de polyamour, il n'y a pas forcément le mot de couple puisqu'on n'est pas forcément deux. On se retrouve vraiment à plusieurs dans cette configuration-là. Est-ce que pourtant, tu as des couples polyamoureux ?
Oui, bien sûr. Alors, mais ça dépend quelle définition on donne du couple, qui est pas facile. Hein. On en a parlé un petit peu avant. C'est pas forcément simple. C'est quoi le couple ? Est-ce que c'est la sexualité ? On se rend compte qu'il y a des personnes qui sont en relation depuis des années qui n'ont plus de sexualité pour plein de raisons, soit parce que plus envie, soit parce que voilà. Donc, est-ce que c'est la sexualité ? Pas forcément. Est-ce que c'est l'amour ? On a des couples par habitude qui sont ensemble depuis des années et qui sont ils s'aiment plus, mais ils vivent ensemble parce que le quand dira-t-on, parce que les enfants, parce que la maison, parce que plein de choses. Donc, est-ce que c'est l'amour? Pas forcément. Donc, c'est quoi le couple? Dans la définition qu'on en a, on imagine deux personnes. Comme j'ai dit tout à l'heure, pour moi, le couple, après cette étude, je dirais que c'est le projet. Et ça, c'est une personne polyamoureuse qui m'a mis sur la voie, qui m'a dit, pour moi, c'est le projet qui peut être de se fréquenter, et de passer un moment privilégié avec une personne. Projet qui peut être matériel, acheter une maison, acheter une voiture, faire des enfants. Donc voilà, c'est gros projet. Mais c'est voilà, c'est un projet. C'est sur quoi on se met d'accord dans la relation. Donc c'est une relation sociale, hein, le couple. Hein, souvent je fais le parallèle avec l'amitié. L'amitié, je dis, mais on se pose pas la question pour l'amitié de, mais on se met d'accord sur des valeurs communes, sur, mais l'amitié a un côté un peu plus flexible que l'amour ou tout de suite. Et c'est pour plein de raisons, c'est totalement compréhensible. Mais l'amour, on se met un peu en mode pilote automatique. Il y a un ensemble de scripts. Hein, le fameux concept de Gagnon et Simon, des scripts sexuels, qui est super pertinent, mais qui s'applique aussi très bien à l'amour. Hein. Il y a, quand on se met en relation, il y a des scripts qui se déroulent. Et donc, moi, voilà, pour moi, le couple, c'est une relation privilégiée avec une ou plusieurs personnes. Voilà. Après, les personnes polyamoureuses sont très fortes pour ça. Il y a une réflexion très intéressante sur plein de configurations différentes. Ça peut être des relations parallèles et absolument pas entremêlées. Ça peut être, c'est pour ça qu'il y a le concept de métamour. Donc, je suis en couple avec deux personnes différentes. Ces deux personnes sont des métamours. Alors, partagent la même relation avec moi, je suis le dénominateur commun, mais ça ne veut pas dire que les métamours ont des relations sexuelles entre elles. Des fois, oui, ça arrive, des fois, non. Ça ne veut pas dire qu'elles sont amies. Des fois, elles connaissent l'existence de l'autre personne, mais il n'y a absolument pas de lien relationnel. Et des fois, les métamours deviennent extrêmement proches. Donc oui, il y a des personnes polyamoureuses en couple. Qui ont une relation, privilégiée, engagée, avec un projet derrière, avec d'autres personnes. Et puis il y a aussi les solo polis où les personnes disent non, je ne veux pas être en couple. Souvent entendu au sens classique du terme, comme la définition que la plus couramment partagée. Je ne veux pas être en couple avec des personnes, mais ça ne veut pas dire que je suis seul. Et d'ailleurs, dans le questionnaire MacLick, on avait mis une question à un moment, êtes-vous célibataire? Et moi, j'ai dit, attention, les personnes peuvent être célibataires et ne voir personne, mais les personnes peuvent être célibataires et fréquenter des personnes. Soit que les personnes disent, c'est pas sérieux. Alors, le terme sérieux dans les relations intimes, moi, m'énerve particulièrement, parce que ça veut dire quoi? Stéphane Rose, dans son excellent ouvrage « En finir avec le couple », le dit d'ailleurs, fait un petit passage sur le côté sérieux. Il dit, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Mais voilà, donc les gens vont se dire, je suis en relation avec une ou plusieurs personnes, mais bon, je m'amuse, donc c'est pas du couple. Mais des personnes peuvent dire, voilà, je suis pas engagé en tant que couple avec d'autres personnes, mais je suis célibataire, mais je vois d'autres personnes quand même, et c'est, j'ai de l'affection pour elles, mais on n'est pas en couple. Voilà. C'est ce que je dis toujours à mes étudiants, je leur dis, attention, quand vous commencez un sujet, définissez toujours les termes. Peuvent paraître évidents, mais en fait, ça ne l'est pas. La bisexualité, c'est pareil, mais ce n'est pas le sujet du jour. Mais voilà, on voit les enjeux. Donc oui, le couple, en tout cas, une relation engagée à long terme et privilégiée avec une personne, oui, ça concerne évidemment les personnes polyamoureuses.
D'accord, parce que moi, quand j'imagine polyamour, j'imagine des personnes qui vivent plusieurs couples à la fois et donc plusieurs relations à la fois, des fois nombreuses aussi. Hein. J'en ai croisé un, je crois, il avait 4 à 5 polyamoureux en même temps, étalés sur plusieurs années hein, de couple.
On a les alors il y a très très peu. Ça faut savoir que les études statistiques sur les non monogamies éthiques, il y en a très peu. J'en ai trouvé en étude 4, 2 États. Alors il y en a sûrement plus en Europe, mais j'en ai trouvé 2 aux États-Unis et 2 au Canada. Mais qui avaient des résultats assez similaires en fait, et c'est ça aussi parce que pour des cliniciens et cliniciennes, c'est souvent une question qu'on me pose. Moi, je fais pas de la clinique, mais les gens me confondent, pensent que on confond des fois psychologie et sociologie. Donc on me pose la question, est-ce que je suis tout seul ou toute seule dans ce genre de situation? Et les 4 études statistiques que j'ai trouvées montraient que 1 personne sur 5 aux États-Unis et au Canada avaient été au moins une fois dans leur vie dans une configuration non monogame, éthique. ce qui est énorme. Une personne sur cinq, c'est plusieurs millions de personnes. Donc c'est pas secondaire. Et en tout cas, c'est pas marginal. Et les actuellement, au moment de la passation de questionnaires pour ces études-là, il y avait 5% de la population canadienne et états-unienne qui était dans une configuration non monogame. Donc c'est pas si inhabituel que ça.
C'est une personne sur cinq là que tu cites. On n'est pas sur quelque chose qui est forcément au vu et au su de leurs propres compagnons parfois. Contrairement à toi, ton étude qui est centrée sur quelque chose dans l'ordre de la transparence, si j'ai bien
alors,
compris.
Alors, si, justement, c'est pour ça que je disais non monogamie éthique. Parce que c'est le terme consacré académiquement, on fait une distinction entre les non-monogamies éthiques, donc où les personnes engagées sont au courant, savent qu'elles ont que leur partenaire peut être en relation de quelque sorte que ce soit avec d'autres personnes, et les non-monogamies non éthiques qui sont généralement l'infidélité et la polygamie, la polyandrie, etc. Où ça repose ces systèmes-là sur la loi. Donc une inégalité, des fois c'est culturel, etc. Ça reste minoritaire dans le monde, mais voilà. Donc ça, c'est des non-monogamies non éthiques.
Donc une sur cinq, tu me disais, c'est
une sur cinq en non-monogamie éthique, oui.
Oui, donc là, le chiffre me surprend beaucoup plus.
Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, encore une fois, je vais prendre l'exemple des bisexualités parce qu'il est très parlant. Dans un questionnaire, on va demander qui êtes-vous bisexuel? On va avoir ces variables selon les questionnaires entre 5 et 15% des gens qui vont se déclarer bisexuels. Par contre, si on s'intéresse aux pratiques, là, on peut monter à beaucoup plus. Il y a une étude il y a quelques années en France sur les personnes qui se disent bisexuelles en France. Ils ont interrogé des personnes gays et lesbiennes. Et ils montaient à plus de 20% des gays et des lesbiennes qui avaient régulièrement des relations, des lesbiennes avec des hommes, des gays avec des femmes, et qui en avaient besoin régulièrement. Mais qui se disaient gays ou lesbiennes.
Mais c'est sur un continuum glissant, on le sait.
Voilà.
Ce n'est pas fixé, c'est pas...
Absolument. Et donc, c'est pareil pour les non-monogamies éthiques. Il y a des gens qui vont se déclarer, ils vont déclarer ça comme une identité, quelque chose de durable. Donc là, c'est un noyau dur, etc. Et puis, il y a le continuum. C'est-à-dire que des personnes qui vont avoir quelques moments ponctuels de sexualité de groupe, par exemple avec leur compagnon ou leur compagne de l'époque, ils vont s'y replacer ça sur l'ensemble de leur vie, ils vont dire j'ai été plus monogame, donc je vais dire monogame. Par exemple, il peut y avoir des variations. Donc c'est aussi pour ça, c'est très flagrant dans le libertinage, où il y a des couples qui vont réserver certaines pratiques à leur intimité conjugale. Je pense par exemple à la sodomie. Il y a des couples, j'en avais rencontré un une fois de manière informelle, qui n'embrassaient pas hors de leur couple. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre dans le champ du libertinage? Qu'est-ce qu'on va... Tout ça est très compliqué. C'est pour ça qu'on dit couple, c'est normal, c'est par automatisme. On va penser un couple de personnes, exclusives, etc. Mais en fait, les définitions peuvent être beaucoup plus mouvantes qu'on ne pense et beaucoup plus variables. Donc, c'est pour ça, dire couple, c'est une chose... Moi, vraiment, quand je discute de manière informelle avec des gens qui m'interrogent sur mon sujet, j'essaie de les amener à leur dire, mais comme avec mes étudiants, je leur dis, mais c'est quoi un couple aux gens? Et là, les gens tout de suite sont un peu, c'est vrai que je me suis pas posé la question. Et de ramener sur l'essentiel, de dire, mais en fait, c'est le projet, c'est ce sur quoi vous vous engagez à. Il m'est arrivé dans des soirées informelles, dans des soirées, avoir des discussions informelles avec des gens, elle m'a trompé, d'accord, est-ce que ton compagnon, ta compagne est toujours présent? Est-ce qu'elle t'aime? Est-ce que ce sur quoi vous êtes engagé est toujours valable? Oui. Elle a couché avec quelqu'un d'autre. Est-ce si grave que ça? Je dis pas que c'est bien ou mal. Attention, je suis pas là pour faire de la morale. Mais et là, des fois, les gens, c'est vrai que Puis des fois, ça peut être aussi. J'avais rencontré de cette manière-là un couple très intéressant. Leur couple allait pas bien, vraiment pas bien. Et puis ils se sont dit, bon, ils étaient dans la vingtaine. Ils se sont dit, bon, ok, maintenant, couple libre, on a le droit d'aller voir ailleurs. Drôle, c'est qu'aucun des deux n'a été voir ailleurs. Mais le simple fait de savoir qu'ils pouvaient le faire, ça a relancé leur couple de manière fantastique. Et ça faisait 2 ans que je les ai rencontrés, qu'ils étaient en couple ouvert, mais qu'ils n'avaient pas été voir ailleurs. Et je disais, mais vous êtes toujours oui. Mais voilà, ça a enlevé un poids et ça les a beaucoup, beaucoup rassurés. Donc, il y a cette phrase, cette fameuse phrase de La Rochefoucauld qui dit, il y a des personnes qui ne seraient jamais tombées amoureuses si on ne leur avait pas parlé d'amour. C'est pareil sur à peu près tout dans l'intimité, la sexualité, la conjugalité. Des fois, juste de dire « Hey, vous pouvez le faire, c'est OK », ça enlève un poids au vent. Et dans mon panel, dans mon échantillon pour ma thèse, j'ai interrogé un homme bisexuel, marié, avec plusieurs enfants, et qui a invité d'autres hommes dans l'intimité de son couple. Parce que ça lui permettait de vivre sa bisexualité et à la fois sa femme en était très satisfaite. Mais ils l'ont fait très régulièrement. Mais il m'a dit à un moment, mais est-ce que je suis tout seul? Donc il y a quand même cette recherche de voilà, est-ce que je suis tout seul à faire ça? Alors qu'il le sait, il rencontre beaucoup de monde. Donc c'est très surprenant. Mais juste dire oui, il y a d'autres personnes, t'es pas tout seul. Ah, ça enlève un poids à ces personnes. Donc voilà, un peu. Je suis parti loin, mais voilà, il y a pour montrer un peu la complexité et la densité de ce sujet-là. C'est pour ça que j'encourage les cliniciens et cliniciennes à vraiment s'adapter à chaque patient, patiente. Et c'est pas un absolu, et c'est ce que je dis aussi dans ma thèse. Je suis pas là pour défendre un modèle relationnel plutôt qu'un autre. Ce qui me dérange, c'est qu'on valorise qu'un modèle relationnel. Il y a un auteur dont je recommande la lecture. Alors, son ouvrage n'est qu'en anglais. C'est Jorge Ferrer, F-E-2-R-E-R, qui a écrit Love and Freedom, où il a fait une recherche bibliographique assez incroyable sur les non-monogamies éthiques. Alors, lui, il nomme polyamour toutes ses relations plurielles. Voilà, c'est un choix académique, mais voilà. Où il va, il montre, en fait, il parle des monopoly wars, donc des guerres monopoly, où il parle d'un côté de polypride, de monophobia, et de l'autre côté de monopride versus polyphobia. Et il montre, en fait, que qu'on soit exclusif, monogame, ou qu'on soit non-exclusif, polyamoureux, en fait, il montre que la justification intellectuelle est la même pour les mono et les poly. Donc, ça va être mobilisé l'histoire, la biologie, la psychologie pour montrer en quoi, d'un côté, la monogamie, c'est la norme et que le polyamour, c'est pas normal, mais les autres font la même chose de l'autre côté. Et lui, à la fin, parle de novogamie. Alors, bon, le terme est ce qu'il est, mais pour montrer qu'en fait, la pluralité des relations humaines, des formes d'intimité, etc. Dans notre étude, on en a eu, j'en ai eu, et ma directrice de thèse en a eu aussi, des personnes, on a eu deux ex polyamoureuses. Une qui disait, c'est un mode relationnel auquel je crois, mais avec les enfants, avec le quotidien, j'ai pas le temps. Et on a eu une ex polyamoureuse qui disait, maintenant je suis dans une relation exclusive et ça m'embêterait que mon conjoint ait d'autres relations amoureuses à côté. Alors qu'elle a été polyamoureuse. C'est très surprenant, mais c'est pour montrer le côté évolutif. Et donc, voilà, c'est variable pour chaque relation. On a eu une personne qui, à 60 ans, a découvert qu'elle était polyamoureuse. Voilà.
Là, tu viens de justifier le autant de couples que de sexualité. Enfin, autant de sexualité que de couples, en fait. C'est ça.
Et d'individus.
Avec un individu, on peut être quelque chose, et avec un autre, devenir autre chose aussi. Il y a de l'évolution.
Oui, et même autant de sexualité que d'individus, autant de sexualité que de couple, mais autant de sexualité que d'individus. Des personnes, j'avais discuté avec une infirmière un jour dont la famille venant voir leur grand-père à la maison de retraite avait été choquée parce qu'ils avaient trouvé un plug anal dans l'armoire à pharmacie du monsieur. Et ils avaient dit, mais il a toujours été hétérosexuel. Alors, elle leur a dit, non, déjà, ça n'a rien à voir, le plaisir anal et l'homosexualité. Mais il y a des personnes qui se découvrent une forme de sexualité. voilà, j'écoutais un témoignage une fois d'un couple qui était de deux personnes qui avaient été dans des couples monogames et très satisfaits jusqu'à leurs 40 ans. Et puis à 40 ans, séparation, etc. Et ils étaient, ces deux personnes interrogées étaient maintenant dans une relation BDSM. Alors qu'ils disaient, nous aurait demandé 10 ans avant, ils auraient fait, mais non, BDSM, pas notre truc. Donc ça varie, ça évolue, c'est bien normal.
Donc au niveau de l'évolution, justement, dans ta thèse, tu as dû parler d'étapes de vie finalement, où peut-être la non-exclusivité était plus questionnée que...
En fait, c'est un autre de mes résultats et c'est aussi un peu le fil rouge de beaucoup de recherches que j'ai faites. Alors, j'ai fait une recherche sur les bisexualités, une sur les cours d'éducation à la sexualité et une sur les applications de rencontres. Et en fait, le moment de vie est central dans la compréhension des formes relationnelles et intimes. C'est-à-dire, en fait, je m'attendais au début de mon étude à avoir des personnes une approche très identitaire, on va dire, de leur orientation relationnelle.
Par comme orientation, une revendication interne, en fait, c'est ça.
C'est ça. Quand je dis identitaire, alors, orientation relationnelle, c'est comme orientation sexuelle, mais pour l'orientation, voilà, polyamoureux, libertin ou autre. Et identitaire, c'est voilà, c'est quelque chose de revendiqué et que les personnes en font un élément central, voilà, de leur personne. Et donc, je m'attendais à avoir, voilà, des personnes, je suis libertin, donc ça veut dire, je suis pas polyamoureux, et je, voilà, et puis, polyamoureux, je suis polyamoureux ou polyamoureuse, et je me revendique comme ça. Et en fait, pas tant que ça, mais comme pour les bisexualités, en fait, des personnes qui se revendiquaient bisexuelles et qu'on faisait un élément central de leur identité, j'en ai pas eu tant que ça. Mais c'était quelque chose, encore une fois, de plus mouvant, de plus fluctuant et de très circonstancié. Et le moment de vie, que ce soit dans les bisexualités, mais aussi dans les relations plurielles, explique beaucoup le passage, le maintien ou le fait de quitter ce mode relationnel-là. En fait, on se rend compte que les adolescents et les adolescentes sont très conservateurs dans leur mode relationnel. Alors, en fait, ça surprend les gens. Les gens disent, mais les jeunes sont beaucoup plus ouverts, etc. Oui, ils sont très ouverts pour les autres, mais pas pour eux-mêmes ou elles-mêmes. C'est-à-dire qu'à l'adolescence, c'est le couple exclusif, traditionnel, engagé à long terme qui est privilégié. Je renvoie à l'étude, l'excellente étude de la sociologue Isabelle Claire qui s'appelle « Les choses sérieuses » où elle a étudié pendant plusieurs années l'amour chez des adolos de milieux aisés, de milieux populaires, de milieux urbains et de milieux ruraux et aussi de banlieues. Et en fait, elle montre que quel que soit le milieu, c'est vraiment le couple exclusif et à long terme qui voilà, et la jalousie est un script souvent mobilisé dans les relations. Donc moi, dans les personnes que j'ai interrogées, le polyamour, les amours pluriels ne sont absolument pas envisagés à l'adolescence. Et voilà, tout le monde m'a dit on savait pas que ça existait. Même les personnes de 27 ans disaient ah ben oui, à l'époque, oui, il y a 10 ans, c'était pas non plus il y a un siècle, mais bon. Admettons. Donc voilà. Donc c'est le couple exclusif qui est envisagé. Les sexualités à plusieurs peuvent être envisagées, mais c'est souvent sous l'angle de la blague. J'ai eu une personne, je crois, qui a fait un premier plan à 3 à 17 ans avec un couple d'amis à lui. Et mais ça, justement, le couple s'est un peu divisé sur le sujet. Mais lui, voilà. Il dit, on a eu l'opportunité, on l'a fait, c'était très bien. Mais c'est voilà, c'est rarissime. Par contre, arriver à l'université, pour les personnes qui ont la chance d'y aller, donc à partir, le système québécois est un peu différent, ils finissent l'équivalent du lycée pour nous, le secondaire, donc ça s'appelle ici à 16-17 ans. Et ensuite, ils rentrent au cégep, dans les films américains, c'est les colleges. Donc c'est un peu comme le lycée, mais un peu plus libre qu'en France. Donc voilà, c'est un peu plus vaste. À ce moment-là, souvent, c'est dans des villes un peu plus grandes, etc. Et donc, les gens sont confrontés à d'autres modèles relationnels, intimes, etc. C'est souvent à cet âge-là que les gens m'ont déclaré vivre leur première expérience bisexuelle. Voilà, il y a aussi, et ça, c'est une blague que je faisais à mes étudiants et mes étudiantes en France, c'est leur dire bah, « Bienvenue à l'université ». Si vous êtes en couple, je suis désolé, majoritairement, vous serez célibataire à la fin de l'année. Donc, vous me regardez en mode, mais qu'est-ce qu'il nous dit? Pourquoi? Ben parce que anonymat des grandes villes, d'autres modèles relationnels, etc. Et donc, les couples formés au lycée avaient tendance à se
et se défont.
Voilà, c'est ça. Puis il y a aussi, ben, il y a une à titre, pour rester en cette anecdote là, quand je dis ça à mes étudiantes, donc, ils étaient un peu, oh non, c'est pas possible. Et à la fin de l'année, il y a une étudiante qui est venue me voir en me disant, bah, quand vous avez dit ça, moi, j'y croyais pas trop parce que j'étais en couple avec mon copain et on venait de prendre un appartement ensemble. Et je dis, et maintenant? Et elle dit, bah, je crois que je suis en couple avec une fille. Alors qu'elle était hétérosexuelle avant. Mais parce que, voilà, il y a des infidélités qui se font à ce moment-là. Les femmes souvent vont découvrir la vie à deux et donc des garçons qui sont pas très portés sur les tâches ménagères. Donc elles en ont vite marre et donc elles mettent fin à la relation et elles découvrent autre chose. Donc c'est à cet âge-là que, voilà, les personnes vont découvrir.
Il y a plus d'exploration, on va dire.
Voilà. Couple libre, libertinage, ça peut arriver, même si c'est pas dit comme ça, c'est un peu plus spontané, mais voilà. Donc la vingtaine est une phase, pas forcément d'expérimentation, hein, ça peut être quelque chose revendiqué et tout, mais voilà, ça peut être aussi, j'ai eu une personne qui était dans il y a eu au Québec en 2014 qu'ils ont appelé le printemps érable, des grandes manifestations étudiantes, etc. Et elle me disait, bah, avec mes amis, on discutait vachement d'autres choses, du patriarcat, du féminisme. Et par féminisme, par militantisme, elles ont dit, on ouvre notre couple. Voilà, donc elles ont ouvert leur couple. Et justement, ça me permet la transition avec la fin de la vingtaine et le début de la trentaine. Il y a un retour à l'exclusivité amoureuse et sexuelle à cet âge-là.
Avec Pourquoi la parentalité.
Exactement. Et cette personne-là, justement, pour continuer cette anecdote, je dis, et 10 ans après, qui est encore en couple ouvert, elle réfléchit, elle me dit, ah bah, juste moi. Je lui dis, pourquoi? Elle dit, ah bah, non, cherche pas. Elles ont toutes fait des enfants. Et c'était la seule de son groupe d'amis à ne pas avoir fait d'enfants. Donc, même pour des personnes dont la non-monogamie, était une identité, était quelque chose de revendiqué, eh ben, il y a un retour quand même à l'exclusivité. J'ai eu une personne qui a 51 ans aujourd'hui, qui a 18 ans, était dans une communauté hippie, donc polyamour, ça remonte, hein, c'était pas hier, mais qui voilà, communauté hippie, qui était travailleur du sexe, qui était polyamoureux, etc. Oui, mais il rêvait de fonder une famille, donc de la fin de la vingtaine jusqu'au début de la quarantaine, il a été en couple exclusif. Alors officiellement c'est un couple ouvert, mais il me disait tellement restrictif qu'en fait voilà, dans les faits c'était un couple fermé. Et donc, voilà, donc les gens reviennent à l'exclusivité. Mais, parce que la parentalité. Mais la parentalité peut être également un facteur accélérant le passage à une non-exclusivité.
Le fameux baby clash, n'est-ce pas?
Le fameux baby clash. Il se trouve que la première année où je suis arrivé au Québec, j'ai travaillé dans un club libertin, montréalais. Et à l'accueil du club, je voyais très souvent des parents d'enfants âgés de 2, 3, 4 ans, 5 ans, qui venaient dans ce genre d'endroit pour la première fois.
Donc, il faut alors que le club libertin s'adapte et mette une crèche, en fait, à l'entrée.
Ouh, alors là, ce serait un peu trop. Déjà, les clubs libertins peuvent susciter des levées de boucliers assez mais voilà, mais pour avoir discuté avec des couples, ils disaient des fois, quelle heure il est, 23h, ah, faut qu'on se dépêche parce que on a la babysitter jusqu'à minuit. Donc voilà, mais oui, mais pourquoi? Parce que, alors j'ai une personne comme ça dans mon étude, très romantique, très, qui rêvait de grand amour, etc. Et elle l'a trouvé au tout début de la vingtaine. Personne qui est devenue son mari, ils ont fait 2 enfants, a dit « j'ai absolument rien à lui reprocher, il est incroyable ». Mais elle me disait « j'ai pas d'enjeu, si je veux de la sexualité avec lui, il est dans la cuisine, j'y vais, c'est bon ». Et elle dit « j'avais besoin de désirer, d'être désiré ». Et aussi, ça c'est beaucoup les femmes ont mis ça en avant, elle me disait Une fois devenue mère, eh ben j'étais plus considérée que comme une mère. Or, j'en ai une qui m'a dit cache comme ça, je suis aussi une salope. Je suis une amante, je suis une amie.
Le syndrome de la madone et de la putain que l'on connaît bien nous sexologues.
Voilà, c'est ça. Et donc, Comment faire pour et donc elle a dit il se trouve qu'elle a commencé à échanger avec un autre homme et il y avait du désir qui montait, donc elle a dit à son mari, écoute, je veux qu'on ouvre notre couple parce que voilà, j'ai rien à te reprocher, mais ça c'est un enjeu aussi parce que on voit des hommes qui en fait, au niveau des interactions genrées avec justement les non-monogamies, c'est pas aussi simple que les hommes proposent, allez tiens, allons au club Liberton, ouvrons notre couple. C'est pas forcément une demande masculine et des femmes qui sont qui se laissent un peu porter. Non, en fait, on se rend compte que c'est des femmes qui agissent, quitte à fragiliser le couple, ça arrive, mais elles agissent. Et les hommes sont un peu plus circonspects, sont un peu plus. Oui, j'ai envie, pourquoi pas, mais j'ose pas trop. Des hommes qui n'assument pas forcément leur désir de pluralité. On le voit pour le libertinage notamment, des hommes qui disent j'aime ça, mais je peux pas le proposer à ma compagne ou qui ont eu des périodes comme ça, plus jeunes, voilà. Mais je vais revenir après là-dessus. Qui n'osent pas trop, qui disent non, c'est du patriarcat, c'est de la masculinité toxique que de proposer ça parce que la femme est un objet. Et en fait, on se rend compte, notamment dans les clubs libertins, qu'une fois arrivées dans le milieu, les femmes sont majoritairement très très contentes de ce mode relationnel-là. Ouais, c'est super, moi j'aime bien et j'ai envie de recommencer. Les hommes n'osent pas trop ça. Donc, c'est pas les hommes qui sont ouais, c'est super et les femmes qui sont réticentes. Ça prend place à différents moments, et souvent
En
dans le
cabinet, moi,
libertisme.
j'ai vu plusieurs fois des hommes qui ont emmené leurs femmes là-dedans, qui ont mis des années à les convaincre, et qu'une fois qu'ils les ont amenées dans ce milieu-là, ils ont fini par le regretter, parce que les femmes étaient devenues de plus demandeuses qu'eux, au final.
Oui, c'est ça en fait où comment dire les femmes on le voit en fait sont réticentes avant d'y aller, peur c'est de la salopophobie basique hein, elles ont peur c'est de la salopophobie intégrée plutôt. C'est-à-dire que voilà j'ai le droit mais et puis arriver dans le club, les hommes se disent souvent avant, ouais, c'est génial, je vais pouvoir coucher avec qui je veux et en plus ma femme sera d'accord. Et à arriver dans le club, il faut pouvoir bander devant d'autres personnes. Et quand on est à la maison seul avec sa conjointe, c'est facile de s'imaginer ça et d'être excité. Le vivre sur place, c'est autre chose.
Le complexe
Donc
du bestiaire.
voilà, c'est ça. Et donc et les femmes arrivées en ce endroit-là, mais ah ouais, je peux. Oui, tu claques des doigts, tu fais toi, tu viens, tu peux coucher avec moi. Elles sont là, mais c'est génial. Donc voilà, donc la parentalité peut accélérer ça, amener voilà le. Vraiment, c'est flagrant dans les milieux libertins vraiment des femmes qui arrivaient à l'accueil, qui étaient très stressées, etc. Et puis, on les suivait un peu quand même dans la soirée, on les laissait pas en libre, on les laissait libres évidemment de faire ce qu'elles voulaient, mais on les accompagnait dans le club pour leur expliquer comment ça se passait, etc. Et je voyais souvent des couples, notamment des habitués, avec qui ces couples-là terminaient. Les femmes découvraient et leur bisexualité, mais c'est souvent des couples similaires, des couples avec enfants, donc c'était aussi, c'est pour ça le titre de ma thèse, entre autres, de ce désir d'altérité. Elle découvrait une personne autre, une altérité, mais à la fois similaire, donc qui renvoyait à cette question notamment du corps. Et le corps des femmes change avec les grossesses, hein. Donc là, ces femmes-là tombaient sur des femmes en couple avec des enfants qui avaient vécu la même chose. Donc cette intimité qui se construisait à ce moment-là était aussi un désir de ce qui était autre, un désir singulier donc de soi à soi, mais à la fois qui est autre. Voilà, donc c'était quelque chose de c'était un aller-retour. C'est pas purement individualiste ou égoïste. Non, c'est un aller-retour entre soi et les autres. Les autres m'apportent quelque chose, j'apporte quelque chose aux autres, etc. Donc voilà. Et pour le polyamour, c'est pareil. J'avais interrogé une personne polyamoureuse dont le conjoint était polyamoureux et elle me disait, il venait d'avoir un petit bébé qui avait 2 mois, je crois, au moment de la passation du questionnaire. et de l'entretien. Et elle me disait, je vais pas interdire à mon conjoint de fréquenter quelqu'un d'autre parce qu'il est polyamoureux et c'est OK. Mais elle dit, on vient d'avoir un enfant, donc s'il me dit par exemple qu'il part en vacances
faut pas
avec
qu'il
une...
découche trop longtemps, en fait.
Voilà, c'est ça. On a un enfant et puis les ressources du couple. Alors oui, c'est son argent parce qu'il le gagne lui-même, mais bon, on a quand même décidé de faire un enfant, donc voilà.
Je vois pas le temps passer avec toi, puis il va falloir qu'on commence à s'approcher de la fin. Dans un précédent podcast, on a interviewé Aurore Malécaras, que tu connais. On a vu avec elle sur son livre Cerveau, sexe et amour. En fait, elle parle beaucoup justement du rapport à ce qui est naturel, donc ce qu'on trouve dans la nature et ce qu'on trouve au niveau neurobiologique chez les humains également. Et elle parle de certains animaux, je crois en tout cas une partie des oiseaux ou autres, que l'on pensait jusque-là hyper fidèles, en couple, très exclusifs également. Mais lorsqu'on teste les petits ou lorsqu'on teste les œufs, on s'aperçoit que le papa n'est pas toujours le papa biologique aussi. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas, je sais pas, un modèle à récupérer auprès de ces animaux-là, un modèle de vie qui permettrait finalement que chacun y trouve son compte.
Alors moi, en tant que sociologue, je vais répondre non, parce que alors je suis pas biologiste, je suis pas neuroscientifique, je suis sociologue. Donc moi, j'étudie ce que les humains font entre eux. Tant mieux si le lémurien pourpre d'Afrique du Sud, j'invente une espèce et monogame ou non monogame, mais c'est un lémurien pourpre d'Afrique du Sud. Pas un être humain. Ce qu'il y a, c'est que moi, en tant que sociologue, la nature a servi des fois de justification pour créer les pires inégalités, les règles chez les femmes, les menstruations chez les femmes, pour dire ah bah vous voyez, on peut pas avoir confiance en des créatures qui saignent tous les mois et qui n'en meurent pas. Enfin voilà, je me prends un exemple volontairement un peu direct. Donc voilà moi, je m'intéresse à comment on interagit les uns avec les autres. Encore une fois, je suis pas là à dire, voilà, il y a un modèle meilleur qu'un autre, sinon ça serait depuis longtemps et on serait déjà passé la recette. Là, je vais peut-être partir à un niveau peut-être plus politique. Ça pose quand même la question des relations au sens large et pas que monogame, mais des relations dans une société capitaliste. La plupart des gens à qui je parle de ce sujet-là, la première réaction, c'est, oh, mais comment ils trouvent le temps pour ça? Bien évidemment, parce que on est pris dans un quotidien qui est quand même contrôlé, contraignant, etc., etc. Mon parcours personnel n'a aucun intérêt dans ce podcast. Néanmoins, je suis un homme de 37 ans, célibataire. Je vois que les relations à mon âge, la plupart des femmes sur les applications de rencontre, dès le deuxième ou troisième message, me demander si je veux des enfants. Parce que, alors, là, il y a du biologique, parce que, horloge biologique, etc. Mais il y a aussi ce social-là, parce que faire des enfants, ça coûte de l'argent, parce que c'est un projet à long terme, parce que, etc. Et j'ai dit tout à l'heure, des personnes dans mon étude ont refermé leurs relations pour avoir des enfants. Et ce qu'on appelle la crise de la quarantaine n'est absolument pas liée à une crise biologique. C'est avant tout un moment où les normes sociales sont questionnées, renégociées, etc. La nudité quand on a 40 ans est beaucoup moins impressionnante que la nudité quand on a 20 ans. À 20 ans, on le voit chez les naturistes, on le voit chez les libertins aussi. C'est beaucoup plus difficile de se mettre à nu devant une personne quand on a 20 ans parce qu'on est encore dans une phase de construction de son identité, etc. que à 40 ans où les gens ont eu des enfants, commencent à vieillir et où le physique est moins important. Et donc, dans une société où on est contraint, ou aussi peut être anxiogène à bien des égards, l'écologie, le chômage, la guerre, etc. Les gens ont tendance à se refermer sur leur bulle, sur quelque chose de connu. Donc le couple reste quand même quelque chose, une référence pour les gens. Donc tant mieux si les animaux ont des modèles non monogames, tant mieux si d'autres sont monogames. Pour les humains, c'est autre chose. Je pense qu'il y a une infinité de possibilités de relations qui existent. J'en ai cité quelques exemples, un couple libre qui font ça de manière séparée, un couple libre qui vont utiliser le fait d'aller sur les applications de rencontre en même temps et de comparer les profils et se donner des conseils, etc. Bah, eux, ça a renforcé leur complicité, donc tant mieux. Ou ce couple qui se dit on coupe ouvert et on se laisse la possibilité d'aller voir ailleurs, mais ils ne vont pas voir ailleurs et ça fonctionne bien. Voilà, ma meilleure amie est en couple depuis qu'elle a 15 ans avec le même homme, ça fait 22 ans cette année, elle est très heureuse. Donc moi, quand je lui parle de ces modèles de relations-là, je lui dis, je suis pas là pour te convaincre, je suis là pour te dire, hey, il y a d'autres choses qui existent, donc si jamais un jour vous vous questionnez, etc., bah, sachez qu'il y a d'autres façons de faire, et vous n'êtes pas obligé de faire ce qu'on appelle en socio la monogamie en série, donc de dire, bah, on met fin à la relation, et non, il y a moyen de faire d'autres choses. Je pense que les gens, c'est ça. C'est comme sur les bisexualités, j'avais fait une intervention dans une classe de seconde, donc avec des ados de 15-16 ans, une fois en France, et je parlais de bisexualité. Je vois deux adolescentes se réveiller en fond de salle, se mettre des petits coups de coude, puis une lève la main et dit « J'ai une amie », donc on savait que c'était, j'avais compris que c'était L2, « J'ai une amie qui a couché avec une amie. Okay » Elle me dit « Est-ce qu'elle est bi ?» Et la conclusion de mon ouvrage sera, là, ce que je suis en train de l'écrire, sera la réponse que je lui ai faite en disant « Bah, oui, si ton amie aime les hommes et les femmes, elle peut dire bi. Puis si ça se trouve, elle va se rendre compte qu'elle n'aime que les femmes. Puis si ça se trouve, elle va se rendre compte qu'elle n'aime que cette femme et les hommes en général. Et puis si ça se trouve, elles vont vivre une relation de couple et puis elles se sépareront un moment et puis il y en a une qui reviendra aux hommes et l'autre restera sur les femmes. Et puis je dis, c'est aussi cool de coucher avec ses amis si tout le monde est d'accord. Et là, je leur citais une émission de radio que j'écoutais quand j'étais ado, où deux femmes de 27 ans disaient, ben, on se connaît depuis qu'on a 15 ans, on couche ensemble depuis qu'on a 17 ans, on a toutes les deux un petit copain, ils sont au courant. Mais on a besoin d'autres moments d'intimité, et la sexualité fait partie de notre amitié. C'est pas une fin en soi, mais c'est une modalité relationnelle qui est possible. Donc voilà, donc il y a plein de possibilités. Et les gens, d'ailleurs, dans mon échantillon, j'ai une femme qui à 40 ans, s'est rendu compte qu'elle était aussi attirée par les femmes. Donc, elle a essayé d'en parler à son mari, de dire, est-ce qu'on pourrait pas essayer de... Son mari, c'était hors de question, je ne peux pas, voilà. Donc, ils ont fini par se séparer, mais voilà, ça aurait été tout à fait possible de vivre d'autres choses. Et donc, voilà, je raisonne en termes de possibilités et de capacité, pour reprendre la capacité, le concept de Martha Nussbaum, très bon ouvrage d'ailleurs que je conseille, capacité s'appelle, où c'est la capacité à agir. Donc voilà, le but n'est pas de dire telle chose est meilleure qu'une autre, mais de dire est-ce qu'en choisissant un modèle relationnel par exemple, puisque c'est ça qui nous intéresse ici, est-ce que ça va pas contraindre trop les personnes? Et comment on fait durer des relations dans un monde à la fois où on bouge quand même pas mal, où on sera amené à rencontrer plusieurs personnes tout au long de notre vie, comment faire durer des relations? C'est pour ça que sortir de la question couple pas couple, monogamie non monogamie, ça me semble plus pertinent. Et de dire, donner des possibilités aux gens, de dire, il existe d'autres façons de faire, et pas un seul modèle.
Et du coup, avant de conclure, qu'est-ce que tu conseilles aux sexologues, notamment? Pour accompagner les personnes qui viendraient avec ces questionnements-là.
Alors, encore une fois, moi, je ne suis pas clinicien, donc c'est difficile pour moi de vraiment donner des conseils. Moi, je suis sociologue, donc par exemple, on me demande souvent c'est quoi l'amour. Et je dis, écoutez, Platon et Socrate ont essayé de faire une définition dans le banquet. Ils n'y sont pas vraiment arrivés, donc ce n'est pas moi qui vais arriver à donner une définition là-dessus. Je pense qu'il faut... On le voit en sociologie et sur tous les sujets, il y a des couches et des couches de représentations, d'histoires, etc., qui se sont rajoutées. Aujourd'hui, on pense que on dit la révolution sexuelle a eu lieu, donc c'est génial. Non, alors il y a un courant en sociologie qui analyse ça comme ça, qui va dire la révolution sexuelle a eu lieu, les gens peuvent négocier d'égal à égal, etc. En fait, on se rend compte dans les faits que c'est pas le cas. Et donc, il y a des couches qui se sont superposées, ce qui fait que notamment dans l'amour, qui est devenu un peu le lieu de la magie, parce qu'on a rationalisé beaucoup de choses dans nos sociétés, donc les gens ont toujours un besoin d'un peu de magie et d'irrationnel, et donc aujourd'hui c'est l'amour qui utilise ça. Et donc moi, quand je discute avec des gens, alors pas en mode clinique, mais avec des gens de manière informelle, je dis attends, on revient à l'essentiel en fait. C'est ok, bon, il y a toutes ces couches de représentation. Déconstruire, j'aime pas le terme, mais enlevons tout ça. Voilà, c'est quoi un couple? C'est quoi l'amour? Voilà, des couples, mais vous avez fait des enfants, vous avez un lien, vous avez quoi qu'il arrive, un lien à vie. Donc, c'est quoi l'essentiel? Voilà, sur quoi vous vous mettez d'accord pour vivre votre relation? Parce que.
Donc, en fait, notre rôle dans ton clinicien, pour toi, c'est quand même de les accompagner à essayer de définir finalement leur projet.
C'est ça.
Leur projet couple, leur projet sens de couple, en fait.
C'est ça, c'est ça. Et de contextualiser, mais ça, je sais que les sexologues le font. Hein. Voilà, un couple qui va pas bien, vous allez essayer de revenir aux origines, voir est-ce qu'il y en a pas un qui a vécu des violences sexuelles, les traumas, etc. Même si la sexualité n'est pas faite que de traumas, et heureusement. Mais voilà, revenir à l'essentiel pour voilà, contextualiser, revenir à l'essentiel. Donc, c'est définir tout ça et que, bah, finalement, un couple, c'est une définition et qui est très singulière. Alors oui, on peut trouver des définitions communes, mais c'est là où, voilà, c'est très contextuel. Les émotions sont contextuelles. La sociologie des émotions le montre bien. Il y a un exemple qu'on donne aux étudiants. On leur montre une vidéo avec une femme qui marche sur la plage avec un soleil couchant et qui est en train de pleurer, puis on leur dit, c'est quoi là ces émotions? Il y en a qui vont dire, bah c'est la beauté du paysage. D'autres, oh elle est sûrement triste. Et moi je rajoute toujours, oui, ou alors elle a le vent dans la face et elle se prend du sable dans la tronche et c'est ça qui l'a fait pleurer. Je dis voilà, ne présumez pas d'une émotivité parce que le cadre est beau. Donc faut toujours recontextualiser tout ça et dire juste des fois c'est possible. Bah ça fait du bien aux gens. Et puis faut savoir aussi que les gens évoluent, les gens changent et que un couple exclusif traditionnel qui va s'être mis d'accord sur un projet peut à un certain moment
évoluer de projet. Donc
voilà,
étapes d'évolution de ces projets-là.
Voilà, et se séparer parce qu'ils ne sont plus au même point. Et voilà, il y a des gens, j'ai vu quelques témoignages là-dessus, je trouve ça incroyable, des gens qui faisaient une fête pour leur divorce en disant on s'aime plus en tant que couple, mais on s'aime encore en tant que personne, on va se séparer, on a fait la fête. Voilà, mais comme j'ai aussi eu des échanges avec des personnes qui, le jour de leur mariage ou souvent quelques jours après ou quelques jours avant, faisaient des orgies en disant bah on nous dit il faut partager l'amour, bah on prend au pied de la lettre, on partage l'amour. Voilà, des enterrements de vie de garçon et de jeune fille qui se faisaient séparément, puis à la fin de la soirée tout le monde se retrouvait, le marié avec les demoiselles d'honneur, la mariée avec les témoins, voire aussi échange entre demoiselles d'honneur mariées, etc. Et puis voilà, et pourtant ils étaient en couple quoi, mais ce couple là ne se basait pas sur l'exclusivité sexuelle. Voilà.
Ça marche. Bon, il va être temps de conclure quand même et bientôt de se quitter. Donc, c'est quoi la suite pour toi?
Les joies de la...
si j'ai bien compris.
Alors,
bientôt
deux livres, même peut-être trois. Un livre sur les bisexualités. Je vais essayer de publier ma thèse et je travaille sur un ouvrage collectif sur les pluralités relationnelles. Donc, polyamour, libertinage, couple libre.
Il y aura des définitions dans ce livre parce que tout à l'heure, tu m'as appris le mot métamour que je ne connaissais pas, tu vois. Donc, moi, je veux bien un livre, un glossaire de définitions. Les amours pluriels, par exemple.
C'est laborieux. Dans ma thèse, j'essaye de donner des définitions, mais il y a tellement de définitions et qui dépendent vraiment des personnes. Et puis, surtout dans le polyamour, le polyamour se structure. Donc, il y a des enjeux de définition et des bagarres un peu là-dessus. Mais voilà, je suis en train d'essayer de recruter d'autres chercheurs et chercheuses de différentes disciplines pour faire un ouvrage collectif là-dessus. Je suis aussi à la recherche d'un post-doctorat parce que voilà, on fait toujours un post-doctorat après une recherche de doctorat. Et la recherche en sciences humaines étant ce qu'elle est, précaire et surtout dans le contexte actuel où il n'y a plus d'argent, et ben c'est compliqué. Donc je recherche en Europe, au Canada, aux États-Unis. Bon, aux États-Unis, c'est vraiment pas le bon moment pour y aller sur ces sujets-là. Mais voilà, je suis en train et surtout du repos parce qu'une thèse, c'est.
Donc là, c'est les vacances, c'est ça?
Semi-vacances, mais oui, je me repose et je profite un petit peu de l'été quand même, tout en travaillant à un côté. Voilà.
Et où est-ce qu'on peut te suivre si on veut justement suivre la sortie des ouvrages, etc. Est-ce que tu as un compte Instagram? Est-ce que tu as
Oui,
autre chose?
Félix Dussault, tout attaché sur Instagram. C'est mon compte académique. Voilà, faut que je le mette à jour avec la soutenance là, mais voilà, il y a le groupe de recherche dont je fais partie, la chaire Erika pour études des relations intimes conjugales et amoureuses, qui est la chaire de recherche en sciences humaines de l'Université du Québec à Montréal sur les relations amoureuses. Je suis aussi membre du CRIPCAS, c'est le centre de recherche sur l'intimité, la conjugalité et les violences conjugales, et le PRFM, le partenariat Famille en mouvance, qui est un groupe de recherche pluridisciplinaire au Québec sur la conjugalité, la famille, etc. Et puis voilà, tous mes collègues chercheurs et chercheuses de ce domaine-là, donc n'hésitez pas à me suivre sur ce compte-là.
Et hors Insta, du coup, t'as...
J'ai pas de site internet, voilà, les réseaux sociaux c'est très bien, j'aime ça, mais voilà, donc
Donc, c'est Insta si on veut savoir la prochaine sortie de tes ouvrages, alors.
c'est ça, ou les sites des chaires de recherche, Erika, on fait de la pub sur nos publications, nos conférences aussi qui sont mises en ligne, donc n'hésitez pas à me suivre sur le Cher Erika, Erica, Erika UCAM, vous tomberez sur le site et là il y a toutes les infos et notamment les résultats de recherche de notre
De
grande étude MacLick, voilà.
D'accord. Bon, bah, écoute, merci beaucoup. On mettra toutes les ressources dans la description de l'épisode. Merci d'avoir, donc Félix Dussault, hein, on répète ton nom comme ça. On te remercie d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Parlez du podcast autour de vous hein, pour les autres. Et puis, au revoir et à bientôt pour un prochain épisode. Au
Merci, au
revoir,
revoir.
Félix.
Au revoir.